France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La disparition d'un géant du cinéma américain à la conscience militante très affirmée, Robert Redford est mort aujourd'hui au terme d'une foisonnante carrière d'acteur et de réalisateur. À Out of Africa, Les Hommes du Président et bien d'autres films mythiques, Redford c'est aussi le Sundance Film Festival, le grand rendez-vous mondial du cinéma indépendant. Page spéciale avec Valérie Cantier dans un instant. Israël lance une offensive terrestre sur la ville de Gaza après une nuit de bombardements. La population terrorisée ne sait plus où se réfugier. L'Europe fait part de son indignation tout en agitant la menace de nouvelles sanctions. Les explications à suivre de Fabien Cazot à Bruxelles. Le statu quo n'est pas une option face à l'urgence environnementale, estime la Cour des comptes. Pour son président Pierre Moscovici, la dette de la France ne doit pas être un prétexte pour abandonner les efforts en matière de transition écologique. Une nouvelle enquête judiciaire contre Rachida Dati. La ministre démissionnaire de la Culture est soupçonnée d'avoir omis de signaler 420 000 euros de bijoux dans sa déclaration de patrimoine. Il est mort chez lui à Sundance, dans l'Utah, là même où il avait créé l'un des plus grands festivals du film indépendant au monde. Robert Redford s'en est allé aujourd'hui à l'âge de 89 ans. L'ange blond du cinéma américain des années 60 et 70 était aussi et surtout un homme engagé dans ses films, devant ou derrière la caméra, car Robert Redford a réalisé quelques œuvres mythiques et au milieu coule une rivière en 1992 avec le jeune Brad Pitt ou bien l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux en 1998. Valérie Cantier, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Vous revenez sur les grands moments de la carrière de Robert Redford.
Né en 1936, Charles Robert Redford Jr. a tout du Californien. Beau, blond aux yeux bleus, athlétique, né à Santa Monica, il grandit à Los Angeles. Mauvais élève au lycée, il trouve son équilibre en faisant du sport et en s'intéressant à l'art et aux grands espaces. À 18 ans, il passe un an et demi en Europe, où il dit avoir acquis sa conscience politique. Robert Redford, c'est le kid aux côtés de Paul Newman, alias Butch Cassidy, en 1969, western sur une bande originale devenue un classique. Redford, c'est le tombeur de Nos plus belles années avec Barbara Streisand en 1973. C'est l'amoureux de Meryl Streep dans Out of Africa en 1986. Mais c'est aussi le journaliste Bob Woodward révélant l'affaire du Watergate et faisant tomber Nixon dans Les Hommes du Président en 1976.
Redford.
I'm Bob Woodward of the Washington Post. Mr. Markham, are you here in connection with the Watergate burglary?
I'm not here.
Timide, il refusait de revoir ses films, sauf un, L'Arnaque, Oscar du meilleur film 73. Il n'aimait pas non plus embrasser à l'écran, selon Jane Fonda, et détestait son image de beau blond aux yeux bleus. Robert Redford était aussi un producteur et un réalisateur accompli, Oscar du meilleur réalisateur et meilleur film pour Des gens comme les autres en 1980, défendant dans ses films des causes qui lui étaient chères, à commencer par l'écologie. Il avait fait le pari fou en 1984 de créer le festival de Sundance, devenu incontournable pour le cinéma indépendant. Il en parlait sur France Inter en 2015.
Pour attirer l'attention, j'ai pensé qu'il fallait que ce soit un peu bizarre. Il ne fallait donc pas que ce soit à Hollywood ou à New York, mais dans les montagnes de l'Utah en plein hiver. Une fois là, les gens réaliseraient qu'ils ont vu quelque chose de nouveau avec le cinéma indépendant. Mon but, c'est l'ouverture à d'autres points de vue.
En 2002, Robert Redford a reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. En le lui remettant, Barbara Streisand a dit de lui que son influence sur l'histoire du cinéma était indélébile.
Voilà un extrait de la bande originale du film Nos plus belles années avec Redford et Barbara Streisand. Valérie Cantier, Robert Redford était bien plus qu'une star de Hollywood, ce qui est déjà énorme. Il était aussi un militant écologiste convaincu.
Oui, absolument. Robert Redford se disait acteur de métier, mais militant de nature. Il est né à Los Angeles en 1936. Il y avait encore de grandes étendues de verdure à cette époque-là. On circulait à vélo. Après la guerre, les buildings, les autoroutes ont poussé. La pollution est arrivée. Et Robert Redford est parti dans les montagnes de l'Utah. Jusqu'à ce projet de centrale électrique en 1975, Robert Redford appellera la télé pour le dénoncer. L'usine ne verra pas le jour grâce à sa célébrité et son action.
Chaque fois qu'une voix s'élève pour défendre la qualité de vie et prend les devants, on dit que c'est un écologiste. Alors oui, je suis écologiste.
Robert Redford s'impliquera dans la rédaction du Clean Air Act et du Clean Water Act, deux lois fédérales de lutte contre la pollution dans les années 70, lois modifiées récemment par l'administration Trump. Il acquiert des terres sauvages dans l'Utah, puis les cède à une ONG pour en faire une réserve naturelle. En 2015, il prend la parole à l'ONU.
Je suis venu aux Nations Unies en tant que militant écologiste, en tant que père, grand-père, et citoyens mondiaux, afin d'exhorter tous les pays à agir maintenant sur le changement climatique.
2015 encore, Robert Redford était aussi devant l'UNESCO à Paris pour la COP21 cette fois. Quant à son festival du film indépendant de Sundance dans l'Utah, il est devenu un haut lieu de défense de l'environnement. Sommets, rencontres, ateliers s'y succèdent. Son fils disait de lui « Mon père m'a toujours dit que l'art et la nature réunis rendaient le monde meilleur ».
Valérie Cantier, merci. Ce soir, l'actrice Jane Fonda salue la mémoire d'un homme qui, dit-elle, incarnait une Amérique pour laquelle nous devons continuer à nous battre. Un des lions s'en est allé, réagit Meryl Streep, partenaire de Robert Redford dans Out of Africa. Repose en paix, mon cher ami, écrit l'actrice américaine dans un communiqué. Quant à Donald Trump, le président américain évoque un grand du cinéma. Il y a eu des années où il n'y avait personne de meilleur. Il était le plus sexy, ajoute le locataire de la Maison Blanche. Gaza brûle, les mots terribles du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, pour décrire la situation militaire dans l'enclave palestinienne. Après une nuit de bombardements incessants, l'État hébreu a lancé ce matin une offensive terrestre sur la ville de Gaza, qui serait le dernier bastion du Hamas. 40% du million d'habitants auraient déjà quitté l'agglomération, selon l'armée israélienne. Pour ceux qui sont restés, la vie est devenue infernale. Depuis Ramallah, en Cisjordanie, Amira Souilem a pu joindre des habitants de Gaza.
C'est une nuit dont elle ne se remet pas. Entourée de ses quatre enfants, Fideh, mère de famille, nous envoie ce message ce matin.
Il y a des bombardements partout, partout. Le bruit que ça fait est vraiment fort et effrayant. Je ne supporte plus ça. Partout et à tout moment, il y a des bombardements. La situation est vraiment très, très dangereuse.
Après cette nuit d'épouvante, c'est décidé. Elle quitte Gazaville.
J'ai peur pour mes enfants, ils sont ce que j'ai de plus précieux. C'est pour eux que je vais partir. On va partir maintenant. Comme nous n'avons pas de moyens de transport, on va marcher, peut-être 6 ou 7 kilomètres. Je ne vais rien prendre avec moi, je ne suis pas capable de porter quoi que ce soit en plus. Je vais tout laisser derrière moi, on va partir, on ne peut plus supporter ça. On n'a plus de force.
Israël dit durcir son offensive afin d'en finir avec le Hamas définitivement. Pour Ayed Emewi, humanitaire basé sur place, l'objectif de ces bombardements massifs est tout autre.
Le message est clair. Vous n'avez plus de foyer, plus de sécurité. Et Gaza n'est plus vivable. Des maisons, des rues, des écoles, des quartiers, des souvenirs sont détruits. En détruisant ce tissu, il s'agit de rendre la vie à Gaza impossible. Il s'agit de mettre en place les conditions physiques et psychologiques qui vont faire accepter à la population de partir vers le sud et ensuite vers une destination inconnue.
Alors que l'offensive terrestre a débuté selon certains médias, la crainte de la nuit à venir est dans tous les esprits à Gaza.
Amira Souilem. À chaque nouvelle offensive israélienne, les réactions indignées se multiplient. En Europe, c'est encore le cas ce soir. Berlin estime qu'Israël va complètement dans la mauvaise direction, tandis que Londres juge l'offensive de l'État hébreu totalement irresponsable et épouvantable. L'Union européenne déplore quant à elle des opérations qui ne feront que provoquer plus de destruction et plus de morts à Gaza. La Commission européenne qui promet également de nouvelles sanctions contre Israël. Fabien Cazot nous appelle de Bruxelles.
Cela fait plusieurs mois que l'Union européenne réfléchit à la suspension de son accord d'association avec Israël, du moins à sa partie commerciale, au titre de l'article 2 qui conditionne son application au respect des droits humains. Or, selon une bonne partie des États membres, France et Espagne en tête, ce n'est plus le cas aujourd'hui à Gaza. La Commission européenne va donc accélérer son calendrier et proposer demain une série de sanctions commerciales contre Israël. On en connaît les contours. Les mesures viseront d'une part les marchandises produites par les territoires territoires occupés dont l'importation sera interdite au sein de l'Union européenne. Et d'autre part, de manière individuelle, certains ministres d'extrême droite ou des colons violents qui pourront faire l'objet de gel d'avoirs financiers et d'interdiction de voyager au sein de l'Union européenne. Encore faudra-t-il que les 27 États membres, jusqu'à présent très divisés, tombent d'accord pour valider ces nouveaux trains de sanctions, à l'unanimité pour les sanctions individuelles, mais seulement à la majorité qualifiée pour la suspension de l'accord commercial, suspension à laquelle s'oppose pour le moment l'Allemagne, qui réunit autour d'elle une minorité de blocage.
Fabien Cazot, correspondant de France Culture à Bruxelles. Selon une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza avec l'intention de détruire les Palestiniens. La commission ne s'exprime pas au nom des Nations Unies, mais elle affirme que l'État hébreu a commis 4 des 5 actes génocidaires définis par la Convention de 1948 sur le génocide. Israël rejette catégoriquement un rapport qualifié de biaisé et mensonger. Israël qui appelle à la dissolution immédiate de cette commission. Aux portes de la Pologne, la Russie et la Biélorussie terminent aujourd'hui leur manœuvre militaire sur le territoire biélorusse, quelques jours après l'intrusion d'une vingtaine de drones russes dans le ciel polonais. Ces manœuvres, qui ont rassemblé 100 000 hommes, constituent une véritable démonstration de force de Vladimir Poutine à destination de l'OTAN. Et les Ukrainiens appellent l'Europe à ne pas sombrer dans la naïveté. Reportage à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, de Simon Le Baron, Gilles Gallinaro et Yann Achar Fazilov.
Cela fait 3 ans et demi qu'on est en première ligne et qu'on essaye de vous prévenir. Voilà ce que dit Yevren.
Qui est le prochain? La Pologne? La Lituanie? La Lettonie? L'Estonie? La Roumanie? Poutine et sa clique, ils testent pour voir si ça passe. Et ça passe. Pour le moment, il n'y a aucune réponse. Que des paroles.
Et ça le ferait presque rire d'entendre politique ou expert militaire parler d'une possible erreur après l'incursion d'engins dans le ciel polonais et roumain.
Les Européens ne font rien. Ils inventent des prétextes pour ne pas faire la guerre. Ça montre encore une fois que l'Europe a peur. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur les drones? Qu'ils étaient arrivés par hasard? Mais chez Poutine, rien n'arrive par hasard.
Oller, lui, se demande même s'il n'est pas déjà trop tard.
Si l'on regarde l'histoire des guerres, elles ont toutes commencé par une provocation. Pendant que l'Europe et l'OTAN réfléchissent, Poutine agit.
Certains disent qu'on est au seuil de la Troisième Guerre mondiale, conclut Oller. Moi, je pense qu'elle a déjà commencé.
Voilà pour ce reportage de Simon Le Baron, envoyé spécial en Ukraine. Cuba, accusé d'utiliser ses prisonniers comme esclaves par l'ONG Prisoners Defenders. Le rapport qui vient d'être rendu public parle de 60 000 détenus concernés, des prisonniers utilisés pour la production de charbon, pour la coupe de la canne à sucre ou bien pour la confection des fameux cigares de la Havane. Pour étayer ces accusations, l'ONG a enquêté durant de longs mois en recueillant de nombreux témoignages provenant d'anciens détenus, mais pas uniquement. L'ONG s'appuie aussi sur des documents officiels cubains ainsi que sur d'autres données vérifiées. Les explications de Nathanaël Charbonnier.
C'est un travail de fourmi qui a été réalisé, qui permet à la fois de comprendre le fonctionnement de l'État cubain et la façon dont les autorités traitent les prisonniers. Il permet aussi de suivre toute la chaîne de production et de diffusion des produits concernés. Qui achète quoi? À quel prix? Quel bénéfice pour Cuba? Quel bénéfice pour les distributeurs dans le monde qui profitent de cette main-d'œuvre exploitée? Car une chose est certaine pour les auteurs de l'étude, ces prisonniers sont bien des esclaves au sens pénal du terme, insiste le président de l'ONG. Ravier Larondo.
Oui, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage car les prisonniers n'ont pas la liberté de choisir, de travailler ou non. Ils ne sont pas payés, ils n'ont pas de contrat. Leurs droits humains sont complètement violés. Ils sont forcés à travailler. Ils peuvent travailler plus de 10 heures par jour et 6 jours par semaine. Donc oui, c'est vraiment de l'esclavage.
Et l'ONG espère que ces données permettront aux pays importateurs de revoir leurs achats cubains qui peuvent se faire en contradiction totale avec la réglementation internationale. Elle espère aussi que les consommateurs seront plus vigilants sur la provenance des produits made in Cuba.
Nathanaël Charbonnier de la rédaction internationale de Radio France. La dette publique qui plonge la France dans la crise politique doit-elle amener le futur gouvernement à revoir sa feuille de route environnementale ? Non, répond la Cour des comptes dans son premier rapport annuel consacré à la transition écologique. Les sages de la rue Cambon l'admettent bien volontiers, la dette publique française est excessive, mais il est vital de répondre à l'urgence climatique. Le statu quo n'est pas une option, estime le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici.
Il n'y a pas de contradiction entre la réduction de la dette écologique et celle de la dette financière. Au contraire, nous sommes aujourd'hui un pays surendetté, il faut le dire. Et ce surendettement se manifeste à travers surtout un chiffre qui est la charge de la dette. Nous remboursons aujourd'hui 67 milliards d'euros par an, c'était 25 en 2021. On sait que ce sera plus de 100. Mais comment veut-on être capable de financer les enjeux du futur, ceux qui concernent les générations qui viennent, nos enfants? Et la transition écologique est le premier de ces enjeux si on a une charge de la dette de cette ampleur-là. Il faut absolument à la fois atténuer le changement climatique et nous y adapter. Et pour ça, des investissements sont nécessaires. Nous estimons ça à 110 milliards d'euros bruts par an, dont tous, bien sûr, ne sont pas des investissements publics. Mais c'est la raison pour laquelle, pour financer ce mur d'investissement qui est devant nous, le construire, il faut réduire notre montagne de dette. Et ce que dit la Cour des comptes, c'est que, un, il faut réduire impérativement la dette de la France, qui est trop élevée, beaucoup trop élevée, qui nous pénalise, qui nous empêche d'agir et qui nous empêche d'investir dans des investissements utiles, la défense, l'innovation, la compétitivité et la transition écologique. Et que deux, on ne peut pas sacrifier la transition écologique. C'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de la planète, c'est l'avenir des générations futures qui est en cause. L'écologie ne peut pas être une variable d'ajustement dans un débat budgétaire quel qu'il soit.
Le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, répondait à Véronique Roberotte. Rachida Dati accumule les ennuis judiciaires à 6 mois maintenant des élections municipales qui la verront briguer la mairie de Paris. Le parquet de Paris annonce aujourd'hui l'ouverture d'une nouvelle enquête contre la ministre démissionnaire de la Culture, cette fois pour l'éventuelle infraction de non-déclaration de bijoux, en l'occurrence 420 000 euros de pièces de joaillerie que Rachida Dati n'aurait pas signalé dans sa déclaration de patrimoine à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Dans un autre dossier, mi-juillet, deux juges d'instruction avaient renvoyé Rachida Dati en correctionnel pour corruption et trafic d'influence. On fait le point avec vous, Aurélien Tirard.
Tout est parti en avril dernier d'une enquête du journal Libération, selon qui Rachida Dati n'a pas déclaré 420 000 euros de bijoux dans son patrimoine lorsqu'elle est devenue ministre de la Culture au début de l'année dernière. Des faits ensuite signalés en juin dernier à la justice, à plusieurs reprises, par un militant écologiste anticorruption grenoblois et par le sénateur socialiste parisien Rémi Féraud. 3 mois plus tard, le parquet de Paris ouvre donc une enquête confiée à la brigade financière et anticorruption de la police judiciaire parisienne. De son côté, la ministre de la Culture conteste toute irrégularité. Elle estime ne rien avoir à régulariser et n'avoir jamais été prise en défaut sur aucune déclaration, assure-t-elle. Il s'agit en tout cas d'un nouveau démêlé judiciaire pour la candidate LR à la mairie de Paris, elle qui sera fixée fin septembre sur la date de son procès. Rachida Dati sera jugée pour corruption et trafic d'influence, affaire dans laquelle est aussi renvoyé Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan.
La journée d'action intersyndicale ce jeudi 18 septembre s'annonce très suivie, davantage que lors du mouvement Bloquons tout le 10 septembre. Les autorités s'attendent à voir plus de 400 000 manifestants dans tout le pays, contre environ 200 000 recensés mercredi dernier. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a présidé ce matin une réunion de travail avec les préfets pour préparer cette journée d'action intersyndicale. Cette journée qui sera marquée par d'importantes perturbations dans les transports, notamment dans le métro parisien avec 13 lignes touchées. Concernant la SNCF, la compagnie prévoit 90% des TGV, mais 50% des intercités et 3 TER sur 5 en circulation. Cette dernière information de nos confrères de France Musique concernant l'Opéra de Paris, dont la rentrée ne pourra pas avoir lieu ce soir comme prévu à l'Opéra Garnier. La première Dario Dante a été annulée en raison d'un mouvement de grève pour des revendications salariales. Le directeur de l'Opéra de Paris, Alexander Neff, déplore, je cite, une perte de recettes de 250 000 euros. La météo demain, toujours des nuages sur le nord-ouest le matin avec quelques pluies faibles, mais une amélioration est attendue en journée. Sur le reste du pays, le soleil devrait dominer. Demain matin, il fera entre 8 et 12 degrés en général. Quant aux températures maximales, elles iront de 21 à 33 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun. À la technique, il y avait Dalia.